Avis critique.
Raphaël Bourgois.
Les idées au banc d'essai, Avis critique explore toutes les disciplines et les indisciplines. Ce soir, comme chaque semaine, deux essais sous les feux de la critique, deux livres qui tentent de penser à nouveaux frais de vieilles questions. La guerre, tout d'abord, dans Aujourd'hui la guerre, publié par Catherine Haas chez Fayard, pour une enquête sur la disparition puis le retour du terme à l'occasion des attentats de 2015, qui remonte aux sources des penseurs comme Clausewitz, Mao ou Carl Schmitt, et l'anthropologue de s'interroger de quoi parle-t-on désormais quand on parle de guerre. C'est un tout autre sujet qui nous occupera en seconde partie, mais qui pose lui aussi la question de savoir comment repenser pour le présent des questions anciennes, en l'occurrence celle des classes populaires. Où va la France populaire? C'est le titre de l'ouvrage dirigé par les sociologues Nicolas Duvoux et Cédric Lomba, publié au PUF, pour finalement repenser une catégorie dont on a vu ces derniers temps qu'elle était à la fois solidaire de destin et extraordinairement hétérogène de situation. Et en studio pour débattre ce soir, Joseph Confavreux de Mediapart. Bonsoir Joseph.
Bonsoir Raphaël.
Et Alechar Chaval-Lazowski de L'Express. Bonsoir Alechar.
Bonsoir Raphaël.
Alors je vous propose de commencer par l'essai de Catherine Haas. Aujourd'hui la guerre, sous-titré « Penser la guerre, Clausewitz, Mao, Schmitt, administration Bush » est publié chez Fayard. C'est un livre tiré de sa thèse en anthropologie politique soutenue en 2015. Après un passage à l'Institut du temps présent, Catherine Haas est aujourd'hui chercheuse associée au CERNA, le Centre d'économie industrielle, Mines Paris Tech, et chargée de cours à Sciences Po Paris. Ce premier essai propose, comme souvent quand un livre est tiré d'un travail de thèse, une enquête très dense et complète. Ici, sous le nom de guerre, comment le mot et la chose ont évolué dans l'histoire et surtout, comment l'étude des écrits des théoriciens comme Clausewitz, Mao ou Carl Schmitt, je l'ai dit, peut servir aujourd'hui. Car, et c'est le point de départ, Catherine Haas constate une grande confusion dans l'emploi du mot « guerre ». Tout est résumé dans un paradoxe, alors que les dirigeants français n'hésitent pas à parler d'une situation de guerre au moment des attentats de 2015, ils rechignent toujours à employer le mot pour décrire les opérations menées au Mali ou en Syrie. L'anthropologue montre comment cette confusion est héritée d'une période après la chute du mur de Berlin, où l'on pensait la guerre disparue et au cours de laquelle on l'a vidée de sa substance politique pour n'en faire que la manifestation d'une sorte de guerre civile globalisée, au risque de ne plus rien comprendre à sa complexité, à ce qui fait la différence par exemple entre le génocide rwandais, la guerre en Yougoslavie ou les affrontements entre Israéliens et Palestiniens. L'objectif de Catherine Haas, c'est donc, Alechar Chaval-Lazowski, justement de redonner du sens à ce mot « guerre » en montrant l'importance d'en avoir une approche politique.
Oui, absolument. C'est un texte qui prend la guerre comme pensée. Et on pourrait dire que l'ouvrage de Catherine Haas, vous l'avez présenté comme anthropologue, mais ça pourrait être aussi vu comme un essai de philosophie politique, finalement, mais dans une perspective plutôt aristotélicienne. C'est-à-dire, non pas à la manière de Platon, justement, de définir de manière spéculative l'idée générale de guerre, qui serait abstraite, invariable, définitive, mais plutôt comme Aristote, justement, sous forme de typologie des cas concrets, des formes de guerre, pour montrer la variété, effectivement, qui peut se contenir sous le terme de guerre, en partant évidemment des guerres contemporaines, vous avez rappelé des cas des années 90 jusqu'à aujourd'hui, mais aussi finalement prendre la guerre toujours en situation, pour reprendre la formule sartrienne, c'est-à-dire dans un espace de conjoncture réelle, saisir les dispositifs historiques, juridiques d'un cas précis, de faire de la guerre, d'une guerre en tout cas, un bloc d'historicité qui va être ensuite détaillé par l'auteur. Alors elle en choisit quatre, puisque le sous-titre, c'est, vous l'avez dit, Clausewitz, Mao, Schmitt et l'administration Bush, bon, qui sont évidemment à des époques et à des temporalités, justement, des blocs d'historicité très, très différents. Alors, pour aller vite, on pourrait dire qu'il y a d'abord la guerre nationale avec Clausewitz, c'est-à-dire, effectivement, les guerres napoléoniennes, Prusse, France des années 1810. Ensuite, il y a la guerre révolutionnaire. Là, on passe tout de suite à Mao, les années 1927-49. Ensuite, il y a la guerre juridique, avec Carl Schmitt, un penseur du droit, qui a fondé aussi, justement, après la chute de Weimar, la montée du nazisme et qui a accompagné, justement, les fondements juridiques du nazisme, donc dans les années 30, début 40. Et après, il y a l'administration Bush, qui, évidemment, nous amène à aujourd'hui. Le livre se termine sur Trump, d'ailleurs, aussi, et un lien entre Trump et Bush. Donc, c'est sur la guerre subjective, disons, l'impérialisme américain comme prise de position sur les tenants et les aboutissants de la guerre, avec évidemment l'enjeu fondamental qui est la sécurité nationale, et qui commence avec les attentats du 11 septembre. En tout cas, c'est le bloc d'historicité choisi par Catherine Haas de 2001 à 2003. Donc ça fait finalement quatre blocs, et je dirais que la ligne directrice, c'est ce que vous avez rappelé, c'est l'idée que la guerre est vidée, mais vidée de quoi exactement? C'est-à-dire que c'est un essai, je l'ai dit, de philosophie politique, mais dans un esprit post-moderne, d'une certaine façon. C'est-à-dire que la guerre, elle est vue, selon elle, la ligne directrice, la guerre est post-étatique. C'est l'État-nation qui va être dissolu finalement dans l'idée de guerre et qui va se déplacer vers des états de violence, vers des conflits, de guerre civile, etc. Et c'est un peu l'enjeu du livre.
Oui, on va revenir évidemment à cette question de la subjectivité, du déplacement vers l'état de violence qui est analysé dans ce livre de Catherine Haas aujourd'hui, La guerre, Joseph Confavreux. Mais restons un tout petit peu sur le constat de début, c'est-à-dire sur cette idée que le mot guerre aurait disparu et refait surface récemment, mais donc vidé de son sens et dans une utilisation, résultat qui est assez incompréhensible selon Catherine Haas.
C'est sans doute ça qu'il faut préciser. Tous les auditeurs qui vont se précipiter à acheter le livre de Catherine Haas ont quand même intérêt à réécouter ce que vient de dire Alyosha, parce que c'est un livre assez ardu, qui a été très bien résumé en l'occurrence, parce que il faut... Évidemment, elle veut repenser la guerre, mais en fait, elle repense surtout la manière dont on nomme ou pas la guerre et comment on la nomme. Moi, c'est à la fois... la raison pour laquelle j'ai trouvé que le livre était très fort, hein, c'est de la philosophie politique, c'est de l'anthropologie, c'est aussi de la géopolitique. C'est pour ça que des fois aussi, j'ai eu un peu une limite, c'est qu'elle dit bien que les questions de guerre et de paix ne sont pas du seul ressort de ces techniciens, qu'ils soient savants ou militaires. Et c'est peut-être là où, pour moi, il y a une limite, c'est que penser la guerre sans penser à ceux qui pensent la guerre, notamment les professionnels, du coup, on risque un peu d'être trop spéculatif, à mon avis. Mais, en fait, son projet, c'est pas vraiment de penser les formes de guerre, même pas la définition de la guerre, mais bien de penser comment et pourquoi on la nomme, ou on la nomme pas. Et là, elle repart de la guerre menée par l'OTAN en ex-Yougoslavie, et notamment de cette déclaration...
C'est une forme de guerre de sortie de la guerre.
Voilà, c'est ça. Alors, elle écrit très bien, avec pas mal de paradoxes. Donc en fait, on la suit, il y a vraiment des moments assez lumineux, des moments quand même qu'on connaît davantage, hein, sur la guerre contre le terrorisme, qui est plus une guerre, parce qu'il n'y a plus d'ennemis. Voilà, elle alterne, moi je trouve, entre vraiment des moments très éclairants et des moments dont on sent un peu plus, voilà, qu'on les maîtrise déjà. Mais ce qui est intéressant, donc je repars de 99, où le secrétaire général de l'OTAN déclare « Je voudrais être clair, l'OTAN ne fait pas la guerre contre la Yougoslavie », au moment même où l'OTAN bombarde... notamment le régime de Milosevic. Et donc, elle part de ça pour dire, bon, qu'est-ce qu'on fait à partir de là, à partir de cet effacement progressif de la guerre, qui est particulièrement sensible dans la dernière partie où elle parle de l'administration Bush en comparant Bush père et Bush fils. C'est-à-dire que c'est, alors qu'ils font la guerre à peu près au même endroit, que d'une certaine manière, Bush fils, George W. Bush, dit que il va finir le travail que n'avait pas fait son père. Et en fait, les justifications, les vocabulaires n'ont plus rien à voir. Donc, on est dans ce moment de brouillage, de déplacement, et c'est là où elle fait quand même un tour de force, même s'il est quand même compliqué, de dire, en fait, pour comprendre ce déplacement, il faut repasser par Clausewitz, Mao et Carl Schmitt.
Alyosha Walazowski, donc ce qu'explique là Joseph Confavreux, c'est cette importance de prendre le mot au mot. C'est ce que dit Catherine Haas dès le début, et qui en fait en effet la force, et parfois aussi contraint énormément le livre, qui est un livre en effet épais, qui est un livre précis, et donc qui peut parfois paraître ardu, mais qui quand même porte des idées très fortes, et qui permettent aujourd'hui d'essayer de comprendre un petit peu ce qu'on dit quand on parle de guerre, et notamment cette idée selon laquelle la guerre concerne avant tout maintenant un espace intérieur, c'est-à-dire c'est plus une relation entre États, mais vraiment un espace intérieur, et une gestion qui est plus policière que militaire.
Oui, absolument, c'est un effet de la déterritorialisation des conflits d'une certaine façon, mais ce qu'a rappelé Joseph, là, le fait qu'un secrétaire de l'ONU, tout en bombardant Belgrade, dise qu'ils ne font pas la guerre, ça fait penser au tableau de Magritte, ceci n'est pas une pipe, alors qu'on en voit une, ceci n'est pas une guerre, et en même temps, elle est là, et c'est ça qui est intéressant, c'est que le nom de guerre, du coup, est totalement dépassé, transformé. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est dans une perspective qui relie justement les auteurs de la tradition, de la pensée de la guerre, parce qu'elle prend par exemple Mao comme non pas un barbare, un bourreau qui a tué 50 millions de personnes quand même et qui a engendré des grandes famines, mais comme un théoricien, justement, un penseur de la guerre, donc à partir de textes théoriques. C'est pour ça qu'effectivement on est dans un dispositif de relecture des grands textes théoriques de la pensée de la guerre, en choisissant des fameux, hein, des importants, des essentiels. Mais c'est vrai que on est dans une phase où la guerre comme système, la guerre comme maintien de l'ordre, comme organisation, et évidemment militaire, avec toute une hiérarchie qui va de l'État, le rôle de l'État, le rôle de l'armée, le rôle des pouvoirs classiques, est déplacé, effectivement, dans ce processus de désétatisation, notamment lié à ce qu'elle rappelle dans les premiers chapitres, là aussi sur des penseurs, finalement, de ces mouvements, on va dire, qui sont postmodernes, c'est-à-dire le travail de Michael Hard et de Tony Negri sur la multitude, c'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui, on est dans un espace globalisé où, justement, le rapport à l'intérieur et à l'extérieur a totalement été transformé dans des sociétés qui sont post-nationales et où le biopouvoir concerne tous les aspects de la vie. Finalement, la guerre, vu justement, ceci n'est pas une guerre, mais en fait, c'en est une, sauf qu'elle ne concerne plus les armées et les militaires, elle concerne tous les citoyens, tous les individus, tous les espaces de la société. Et du coup, effectivement, ça complique la donne, ça complique le sujet, puisque d'une crise nucléaire à une catastrophe climatique, en passant évidemment par les violences terroristes, on est dans une société où justement les bouleversements de ce type posent des questions sur quelle est la place de l'individu dans la cité.
J'aimerais juste, parce que quand j'ai lu ce qu'elle disait, par exemple, sur le fait, le déni de guerre par certains opérateurs de guerre, je me suis dit, au fond, qu'est-ce qu'il y a de très neuf par rapport à, par exemple, la guerre d'Algérie, où l'État français a constamment nié l'idée qu'il y avait une guerre en Algérie, parlait d'événements, et avait déjà une approche policière, enfin, en réalité militaire, mais avec un affichage policier. Donc là, moi, je me suis un peu demandé si, est-ce qu'il y avait vraiment quelque chose de nouveau, est-ce que les gens qui font la guerre prétendent ne pas la faire ? En réalité, il y a effectivement quelque chose de nouveau, parce qu'on peut dire que appeler la guerre d'Algérie des événements, c'est vraiment juste un cache.
Elle le dit d'ailleurs, hein. Dit, quand on voit la guerre d'Algérie, on sait bien que les gens savent bien que c'est la guerre. Alors, et donc, ce cache que vous évoquez, il le désamorce assez facilement.
Oui, il le désamorce facilement, mais bon, on pourrait dire aussi que, au fond, quand George Bush fait la guerre en 2003, nous aussi, on se dit, bah, c'est la guerre. Il a beau nier ça, mais là où c'est intéressant, c'est qu'elle dit, en fait, on ne fait plus la guerre à des États, ce qui est un peu la logique, on fait la guerre à des régimes ou à des entités encore plus floues, que ce soit les terroristes, le terrorisme ou les États qui sont susceptibles d'abriter des terroristes, et là, moi je trouve que c'est là où le livre devient vraiment très intéressant, c'est quand elle dit, au fond, la guerre menée par l'administration Bush, c'est une guerre qui prétend faire la guerre pour les individus des États qu'elle attaque. C'est-à-dire que, en gros, on n'attaque pas l'Irak, on n'attaque pas l'Afghanistan, on attaque des régimes considérés comme iniques, possédant, même si c'était pas le cas, des armes de destruction massive, et pas seulement des entités terroristes. Et donc, elle a cette idée que, alors que l'Amérique a longtemps été vue comme faisant la guerre, notamment post-guerre froide, pour le monde libre, et ben là, elle ne fait plus la guerre pour le monde libre, mais pour les individus libres. C'est-à-dire qu'elle ne veut plus voir que la grande puissance américaine face à des individus qui vivent dans différents pays, mais qui n'aspirent qu'à vivre comme aux États-Unis.
Et elle pousse la réflexion très très loin, hein, Alyosha Wadlasowski, puisque Catherine Haas, dans ce livre « Aujourd'hui la guerre » donc publié chez Fayard, nous explique que finalement la violence, toute violence devient guerre et toute guerre devient violence, et que c'est le propre même de la mondialisation. La mondialisation a fait de la violence un paradigme partagé. Et donc elle analyse notamment la question du génocide rwandais, qui peut être appréhendé selon elle comme un effet de structure de la mondialisation et s'inscrire dans ce qu'elle appelle le gris des violences contemporaines, sont ni guerre ni paix. Mais avant d'arriver là, justement, elle analyse, vous l'avez évoqué rapidement, mais je crois qu'il faut en parler un petit peu plus longuement, parce que c'est vraiment toute la première partie du livre qui est aussi très très intéressante. Comment au tournant des années 2000, il y a une réflexion, ce qu'elle appelle la doxa globaliste, ou le corpus de la déshérence, toute une réflexion nourrie sur la fin de la guerre, et elle y voit justement ce moment où émerge cette idée de violence, de chaos généralisé, d'impuissance de la puissance, pour reprendre reprendre un terme de Bertrand Badi qui est cité aussi dans le livre. Et c'est quand même un passage très intéressant pour comprendre comment on en arrive aujourd'hui, enfin ensuite à l'Irak, à la Syrie et à d'autres conflits tels qu'ils existent aujourd'hui.
Oui, vous l'avez bien rappelé tous les deux. C'est vrai que la guerre aujourd'hui ne concerne plus le champ militaire, mais concerne vraiment tous les aspects de la société. D'ailleurs, dans les formules War on Terror ou Axe du Mal, etc., on voit toute la... C'est-à-dire qu'on a changé d'appareil idéologique, on a changé de logiciel, finalement, de vision du conflit. Et c'est vrai que derrière cette question de la, justement, de la fin de l'État ou d'une société post-étatique ou de désétatisation, il y a tout ce qui concerne les opérations de police, les guérillas urbaines, les violences sociales, toutes ces nouvelles formes de tensions, de conflits, de violences qui pas justement les clivages traditionnels. Et je pense que l'idée finalement de Catherine Haas, c'est de retourner en fait la célèbre phrase de Clausewitz. Hein. La guerre n'est... Alors la célèbre phrase de Clausewitz, c'est justement qui est dans un texte assez théorique et pratique. C'est là aussi l'intérêt des auteurs qu'elle a choisi, c'est qu'ils sont à la fois dans la théorie, dans la pensée, et aussi Clausewitz, il a quand même été général, officier, en tout cas il a travaillé...
C'était un général prussien voilà. Face aux guerres napoléoniennes. Absolument. Et ensuite qui a mené une réflexion au 19e siècle justement sur l'art de la guerre.
Exactement, qui a même été prisonnier et qui a du coup ensuite profité aussi de son expérience de terrain militaire pour penser la guerre un peu autrement, justement. Et alors, la célèbre formule que tout le monde connaît, enfin, qui est connue, c'est que la guerre n'est rien d'autre que la poursuite de la politique d'État par d'autres moyens. Ça, c'est en 1832, dans le traité politique de la guerre. Et je pense qu'elle retourne la phrase, finalement, parce que pour elle, les actions politiques, mais dans un autre sens, qui ne sont plus les actions politiques d'État, mais les actions politiques aujourd'hui dans une sorte de diversité, de flou, de transformation, sont la continuité de la guerre. Mais par d'autres moyens, qui ne sont plus les moyens de l'État-nation, qui sont plus les moyens de la guerre économique, par exemple, ou de la guerre d'État contre État, justement, mais qui véhiculent d'autres aspects, d'autres éléments. Et c'est pour ça que Clausewitz est très intéressant comme levier, je pense. C'est pour ça qu'elle repart de Clausewitz comme basculement, justement, d'une certaine vision de la guerre, que Clausewitz appelle la guerre absolue, à quelque chose qui... Parce que Clausewitz a vécu, justement, à la fois des victoires et des défaites. Ça a commencé plutôt par les défaites en 1806, avant d'arriver à Waterloo.
Alors, cette disparition de la guerre théorisée par Catherine Haas, elle laisse les États et les gens en vis-à-vis, nous dit-elle. C'est-à-dire, l'usage de la violence devient sans délai. Ça devient une sorte d'immanence de la violence dans la situation politique telle qu'elle est aujourd'hui, Joseph Confavreux. Et le tour de force un petit peu de ce livre, c'est qu'elle en arrive à pousser sa réflexion tellement loin que cette réflexion soutenue sur la guerre permet de comprendre, selon elle, la crise du politique, la crise de la représentation aujourd'hui, et notamment dans cet usage politique de la violence.
Oui, c'est là où elle sans doute force un peu les choses. Hein. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais exactement quand est-ce qu'on est dans la métaphore et dans l'analyse vraiment des processus étatiques, institutionnels. C'est pour ça que je dis que la manière dont elle évacue les penseurs et les activistes, enfin les militaires, ceux qui vraiment théorisent la guerre et la pratique, me semble être le point qui manque. Après, elle peut pas tout faire, hein, c'est un projet particulier, mais on sent que, par exemple, moi ça m'a intéressé sur la manière dont aux États-Unis elle parle très peu de ce qui a été avant la guerre au terrorisme, cette guerre à la drogue, qui a été en fait une guerre déjà à la fois intérieure et extérieure, qui a eu des conséquences sociales inimaginables, des conséquences géopolitiques. Et donc, je pense que c'est là où, à la fois, comme vous dites, elle fait un tour de force, mais le tour de force, dans le tour de force, il y a aussi force. C'est-à-dire qu'elle force un peu l'interprétation, jusqu'à dire que, au fond, la doctrine, la nouvelle doctrine militaire américaine, enfin la doctrine de la guerre américaine, est une manière d'essayer de créer un monde sans État. C'est-à-dire d'aboutir à ce monde globalisé, à ce monde où tout est guerre et donc rien n'est guerre, où tout est paix et tout est guerre à la fois, en faisant disparaître au fond la souveraineté des États comme obstacle à le capitalisme américain qui est devenu la seule grande puissance depuis l'effondrement du mur. Parce que c'est ça son point. Mais c'est pour ça que, par exemple, je pense qu'elle est obligée rhétoriquement d'évacuer la guerre à la drogue, parce que comme ça arrive avant sous Nixon, donc avant l'effondrement du mur, ça colle pas dans la manière dont elle arrive à forcer les choses en disant aujourd'hui on n'a plus affaire à des États qui peuvent s'affronter sur des combats idéologiques, on est dans une sorte de nation-monde, hein, qui serait c'est une version un peu différente de l'Empire, tout à l'heure Alyosha parlait de Hart et Negri, qui en fait considérerait le monde comme un endroit de gestion où les frontières ne sont plus importantes et où on fait de la politique intérieur, comme on fait de la politique extérieure, et donc du maintien de l'ordre, qu'il soit policier ou militaire, ça ne change pas énormément les choses.
Le chef Alassowski.
Bah oui, c'est vrai, parce que c'est le paradoxe justement américain. C'est justement ça le problème, c'est que le rapport entre l'Amérique et le reste du monde est quand même un rapport qui est assez complexe, qu'il faut analyser, parce que elle rappelle, et je pense qu'elle a raison, qu'il y a par exemple du côté de Clinton et Obama plutôt une politique étrangère qui est de s'intégrer à l'ordre international, alors que justement avec Bush, bah c'est évidemment la sécurité nationale, donc il y a quand même un repli sur justement la nation, avec à la fois le Patriot Act, War on Terror, Homeland, et il faut rappeler par exemple qu'après les attentats du 11 septembre, le premier homme d'État qui a téléphoné à George Bush, vous savez qui c'est Vladimir Poutine, qui a téléphoné à Bush après les attentats du World Trade Center pour justement essayer de créer une sorte de diplomatie ici unilatérale entre les États-Unis de Bush et Poutine, qui lui a dit qu'il lui a donné tout son soutien et que lui-même avait des problèmes avec le terrorisme tchétchène qu'il avait dans son propre pays. Et donc on voit comment ici se joue aussi, se greffe évidemment des diplomaties internationales. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a évidemment tout un rapport entre la politique américaine et sa vision impérialiste qui sous-tend, comme évidemment par exemple Trump, parce qu'elle en parle à la fin du livre, qui quitte les accords de Paris sur le climat en 2017, et qui justement, dans cette perspective où les frontières sont devenues beaucoup plus complexes à penser, finalement joue quand même la carte de l'isolationnisme, évidemment. Et on l'apprend aussi, en 2019, le budget de l'armée sous Trump est quand même de 716 milliards de dollars, ce qui est quand même gigantesque pour l'armée. Donc ça prouve bien que on est quand même dans une... voilà, est-ce que l'Amérique joue collectif? Est-ce que l'Amérique joue perso? Est-ce que l'Amérique joue pour ses propres intérêts? Bon, c'est évidemment des questions qui rejouent impérialisme, militarisme et aussi nationalisme.
Alors, les questions géopolitiques sont évidemment présentes dans ce livre de Catherine Haas, mais elles sont pas centrales. C'est vraiment une réflexion politique, anthropologique, philosophique, vous l'avez dit, l'un et l'autre, sur ce que la guerre veut dire, son utilisation, pour finir par nous dire que tout ça, la guerre comme la paix, sont du ressort de la décision politique, ce qui laisse quand même un petit peu espérer. On lit donc Catherine Haas, aujourd'hui, la guerre chez Fayard.
France Culture, avis critique,
Raphaël Bonbois.
Yeah. I make more than Dwayne Wade, baby. I'm straight and I stay faded. Never worked in the gym, but I waited.
First off, you get the ammo, then you cock it. First off, we had this blast up like a rocket. I put a paddock water on, but I got options. PJ taking off and I ain't stopping, nah. Louis V belts, Louis V on my walls. Fish scared, I can't f*** with no law. Never Ferris on my lane, I see Fugazi. I should pimp this b*** and make her pay me. Started off surfing on a codeine wave. On exchange info with these. They some ops, you can kill them, they ain't with us. Ordered a pound of gas and smoke, I need a filler. Got a line on good gelato and gorilla. Y'all look freaky with me, know you gon' get hit up. Stepping over dead bodies in my jello. I touched 100 M's and I've been getting better. In the red Bugatti, gave it right to valet. Shoot his head all right and get your new shenanay. Shootin' dice all night, yeah, me and Day-Day. We had to work the one on him, it was a good payday. He was a teenager, they put him on the news where I'm from. He let off 40 shots, he can't get no bun. Clothes on, he shot when he killed him, he young. If you ever get caught snitching, they gon' cut off your tongue. I can't wait till they set the rat up, yeah. I was catching drugs, now I'm a millionaire.
Deuxième temps de l'émission, je vous propose maintenant de nous pencher sur l'essai dirigé par Nicolas Duvaux et Cédric Lomba, « Où va la France populaire ?» publié aux Presses universitaires de France dans la collection lavidesidées.fr. Ils sont tous les deux sociologues, comme d'ailleurs l'ensemble des contributeurs du livre. Nicolas Duvaux est rédacteur en chef d'ailleurs de la revue en ligne lavidesidées.fr, professeur des universités à Paris 8 Vincennes-Saint-Denis et chercheur au CRESPA, le Centre de Recherche Sociologique et Politique de Paris, où officie également Cédric Lombard en tant que directeur de recherche au CNRS. Alors comme dans le premier essai, on s'intéresse ici à un mot, une expression qui est loin d'être une invention conceptuelle, mais qui semble avoir perdu ces dernières années de sa signification, de sa valeur opératoire. La question est donc simple et relève de la définition. Qui sont les classes populaires? Malgré le pluriel, l'unification dans cette catégorie de ceux qu'on désignait avant par le terme de classe ouvrière a empêché assez largement, selon les auteurs, de prendre en compte la diversité des situations qu'il a composées. Il s'agit donc ici, à travers une série de textes, de dresser une carte des classes populaires en partant de leurs différences, à travers les prismes du travail, du logement, des conditions de revenus, des pratiques culturelles ou encore des ressorts moraux comme un certain rapport à l'égalité. À travers 5 textes tirés d'enquêtes sociologiques au long cours, les auteurs dessinent le portrait de ceux qui aujourd'hui nourrissent le rang des gilets jaunes. On comprend à la lecture de ce livre, Joseph Confavreux, que la diversité des revendications et des positions que certains peuvent reprocher au mouvement trouvent en fait leurs origines dans une grande hétérogénéité des situations.
Oui, là où le livre de Catherine Haas résonne peut-être, par exemple, avec ce qui se passe en ce moment au Venezuela, ou ce qui se pourrait se passer en matière d'impérialisme, d'anti-impérialisme, mais c'est assez involontaire, hein, vous avez dit que c'était le produit d'une thèse. Là, on est dans cette collection de la vie des idées au PUF, qui est souvent très pertinente, parce que en gros, ils ont un grand réseau, notamment de sociologues, enfin, c'est très sciences sociales, et ils publient en fonction d'une actualité, là, en l'occurrence, les Gilets jaunes, des textes qui résonnent tout en étant complètement décalés. Donc vraiment, souvent, on apprend beaucoup de choses et je trouve que ce livre-là ne déroge pas à la règle. Alors après, c'est vraiment, comme vous l'avez dit, des études de cas sociologiques. Donc, c'est pas écrit comme un polar. Donc, on peut tout de suite répondre que où va la France populaire? On n'aura pas le fin mot de l'énigme à la fin, si ce n'est que elles y vont, la France populaire, elle y va en ordre dispersé. Parce que déjà, on savait bien que les trajectoires des classes populaires n'étaient pas les mêmes que celles des classes moyennes, ni évidemment que l'élite. Mais ce qu'on découvre dans texte, c'est que parler même de multiplicité des classes populaires, c'est déjà faux. C'est-à-dire que on est dans des micro-ségrégations, des éclatements multiples. Le terme de micro-ségrégation, il est issu d'un des textes qui est très intéressant sur la rénovation urbaine, sur laquelle on va sans doute revenir, et ses effets sur les classes populaires. Et que donc, il faut quasiment entrer dans de la micro-histoire. C'est-à-dire que, une des contributions les plus intéressantes, il faut bien dire qu'elle est fondée sur quasiment un entretien avec 3 femmes de milieux très populaires, sur l'économie domestique, où, comme elle dit, les petites différences font toute la différence. Et c'est là où je trouve que, même si, alors voilà, c'est pas très synthétique, c'est pas écrit comme Catherine Haas, c'est un livre qui, au regard de ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire, mais c'est quoi ce peuple des gilets jaunes? Est-ce qu'il, comment il se positionne à la fois par rapport aux élites, mais à la fois par rapport aux classes encore plus populaires, est vraiment un livre plus qu'utile.
Oui, c'était un vrai travail de sociologue, Alyosha Walasowski, je l'ai dit. Donc, il y a une introduction par les directeurs, Nicolas Duvoux et Cédric Lombard. Ensuite, 5 textes, Florence Weber qui parle de l'exigence ouvrière d'égalité, Pierre Gilbert de la rénovation urbaine, David Gabiro et Carlota Benvenu qui nous parlent du hasard de la logistique. Donc, c'est sur comment le travail en entrepôt a remplacé en quelque sorte le travail à la chaîne dans les usines. Anne Perrin Heredia, ça vient d'être cité par Joseph Confavreux sur les petites différences, qui est un thème finalement qui traverse un peu tous les textes, qui synthétise bien ce qu'on apprend à la lecture de ce livre. Mais je termine avec le dernier texte, qui est celui d'Olivier Masclé, qui est vraiment un texte très intéressant aussi sur l'usage de la télévision face à la télévision, un miroir des inégalités, c'est-à-dire qui montre comment il y a des usages différenciés de la télévision, même au sein de classes qu'on pourrait penser homogènes. Et donc, je vous interrogerai là-dessus peut-être pour un premier regard assez général, Alyosha Walasowski, puisque c'est vraiment ça l'objet de ce livre, c'est de montrer comment, si on regarde avec une longue focale, on a l'impression d'une forme d'homogénéité des classes populaires, malgré le pluriel. Et comment, plus on se rapproche, plus on regarde de près, notamment par des études de cas, plus on se rend compte que ces micro-différences ont des conséquences énormes.
Oui, vous avez très bien dit tous les deux que effectivement c'est dans le détail de témoignages très précis, qui sont tous d'ailleurs contemporains et tous issus par les sociologues, sont chacun spécialistes finalement de leur domaine. C'est-à-dire que non seulement ils font des textes comme ça courts et très accessibles, immédiats, mais derrière il y a tout un travail. Effectivement, ils ont souvent fait des gros volumes, des gros travaux de recherche.
C'est des années de recherche.
Voilà, qui permettent quand même d'aboutir à des résultats très précis. Et effectivement, plus c'est précis, plus on opère justement que les micro-détails, les micro-variations sont essentielles pour penser énormément de choses. C'est-à-dire pour penser quoi finalement? C'est-à-dire montrer d'abord que ce n'est pas une France qui est statique, c'est une France qui est totalement en mouvement et en interaction les uns avec les autres, sous forme à la fois de solidarité, d'entente, mais aussi de tensions sociales, familiales, culturelles, politiques, dans des aspects effectivement qui rejoignent un peu les cultural studies, c'est-à-dire que lorsqu'on regarde la télévision, bah, finalement ça dit aussi beaucoup sur notre rapport à l'éducation, à la famille, au partage, au vivre ensemble, au chez soi et à l'extérieur aussi. aussi de soi. Dans le premier texte, Florence Weber, par exemple, elle parle justement, elle, des micro-différences qu'il y a dans la fratrie familiale entre les frères et sœurs, dans le lien non seulement avec les parents, qui ont souvent été d'abord effectivement les premiers, ou en tout cas qui appartiennent à des générations ouvrières, je veux dire très traditionnelles, très classiques, qui ont beaucoup travaillé pendant des années et qui ont pu ensuite évoluer, ouvrir un commerce. Elle raconte par exemple un homme qui, à 50 ans, après avoir été ouvrier, ouvre un commerce. Ses deux fils, l'un né en 56, l'autre en 65, ont deux parcours différents. Hein, l'aîné, il fait une sorte de, disons, d'évolution, mais plutôt par le bas, parce qu'il va devenir sommelier. L'autre, le cadet, va avoir une évolution un peu différente, il va devenir avocat d'affaires. Mais le rapport au... Donc tous les deux réussissent un peu le projet, le désir des parents que les enfants réussissent, mais le rapport qu'ils ont aussi entre eux et à leurs parents va se distancer, va se tendre, va y avoir une tension, effectivement, qui va se faire.
On avait parlé du livre sur les transclasses à ce micro, et c'est vrai que c'est vraiment la logique qui est analysée ici. Alors, c'est vrai qu'on reproche souvent à la sociologie, en tout cas, on a pu entendre le reproche à la sociologie de son déterminisme. Ici, ça vole complètement en éclat, Joseph Cofavreux, puisque même s'il y a une véritable prise en compte des contraintes, on voit bien qu'il y a aussi, comment dire, l'analyse par les études de cas, l'analyse de stratégies individuelles. On voit que ce sont des acteurs qui sont pas que agis, mais qui aussi mettent en place des stratégies. Et il y a une vraie évolution aussi, j'allais dire presque méthodologique. C'est dans l'article de Florence Weber, le premier, l'exigence ouvrière d'égalité, mutation et résistance. Florence Weber a ces mots, elle dit « Les outils statistiques de la sociologie, tout comme l'usage routinier des théories de capital symbolique et de légitimité culturelle, semblent aujourd'hui impuissants à penser le bouleversement de la pensée contemporaine. »
Oui, et alors que Florence Weber vient plutôt d'une sociologie bourdieusienne, qu'elle dit ça, c'est vraiment intéressant parce que on est sur des études de cas très concrètes, mais qui résonnent avec des théories beaucoup plus importantes. Vous avez parlé des transclasses, donc qui est un terme forgé par Chantal Jacquet, qui est à mon avis très intéressant pour comprendre aujourd'hui ce qu'est le déterminisme ou pas, parce que les transclasses, donc, qui sont ceux qui réussissent à passer d'une classe à l'autre, à avoir une vraie mobilité sociale, on voit bien qu'il y a deux camps politiques qui s'en emparent de manière différente, les uns pour dire bah vous voyez, si on veut on peut, et les autres pour dire non mais c'est des exceptions absolument quasiment qui vont à l'encontre de ce que dit Bourdieu, qu'on ne peut pas du tout considérer comme quelque chose de sinon modélisable mais même extensible. Et là le livre parvient à tenir celui-ci une ligne étroite, parce que à la fois vous avez quelqu'un comme Florence Weber qui dit la théorie de la reproduction, elle est importante, mais si on en fait un usage routinier, on ne comprend pas pourquoi au sein d'une même fratrie, vous allez avoir deux frères qui vont s'en sortir et deux frères qui vont pas s'en sortir. Mais inversement, dans l'article sur les petites différences économiques, c'est-à-dire où elle prend trois familles qui vraiment appartiennent aux classes populaires les plus dominées, les plus défavorisées, où il y a un écart de revenus dans les familles de quelques dizaines d'euros, avec les prestations sociales et les salaires, et elle montre bien que ça, on dirait vite, et il y en a une qui est très endettée, alors que les autres s'en tirent difficilement, mais s'en tirent. Et elle dit bien que un regard de loin, et un regard, comme elle dit, domino-centré, qui considère que quelques dizaines d'euros, parce que on gagne beaucoup plus, c'est pas grand-chose, va attribuer aux conduites de ces familles le fait que l'une soit endettée alors que les deux autres s'en tirent. Et elle montre que non, c'est pas du tout ça. Il y a des vrais effets de structure, des vrais effets de domination, où une dizaine d'euros d'écart au départ, déjà quand on est sur un budget de 800 euros, c'est beaucoup, mais ensuite ça fait des adios, des frais, ça fait qu'on contracte un crédit, et souvent un crédit à des taux catastrophiques, qui fait que ça, il y a un énorme effet boule de neige, qui fait qu'une petite différence de départ devient une immense différence de départ, et que c'est pas une différence de conduite morale, comme souvent une partie des dominants regarde les pauvres comme en fait ceux qui s'en tirent, c'est parce qu'ils l'ont vraiment voulu, ceux qui ne s'en tirent pas, c'est parce qu'au fond ils ont des déficiences morales.
Oui, cet article d'Anna Perrin Heredia est très intéressant sur les petites différences. On va s'arrêter un petit peu à Alyosha Walaszewski. Elle étudie donc trois ménages autour de trois femmes qui sont très proches. Elles sont souvent liées par des liens familiaux. Elles sont dans les situations situation assez similaire, c'est-à-dire qu'elles gagnent assez peu en emploi partiel ou par le biais de prestations sociales. Leur mari, c'est la même chose. Et c'est vrai qu'elles montrent comment il suffit qu'il y ait un petit truc qui dérape pour l'une d'elles et comment ça peut prendre des proportions énormes. Et évidemment, comme l'a dit Joseph Confavreux, ça vient mettre un petit peu en cause l'approche par les conduites, par le résultat. On dit, vous voyez, si on regarde le résultat, on peut remonter aux causes des situations. Elle dit non, c'est pas du tout comme ça qu'il faut regarder les choses. Et surtout, toute forme de proposition de responsabiliser, par exemple, ces types de conduites, tombe à l'eau quand on voit la réalité sociologique de ce qu'elle montre.
Bah oui, effectivement, parce que les critères échappent aussi à une sorte de maîtrise et à une sorte de domination, justement, des conditions. Parce que comment sortir de la précarité ou ne pas y plonger plus? Quel destin social nous attend? Comment, justement, éviter ces galères et ces chutes? Et essayer de, parce que toute la question, c'est effectivement une sorte de sociologie des budgets, finalement, une sociologie des finances, des pratiques de consommation. Est-ce qu'on peut aller dans la supérette qui est un peu plus chère que le grand supermarché, mais qui est plus loin? Et comment on peut, justement, essayer dans ces micro-différences sociales par rapport à un environnement qui nous est proche, justement, essayer de tenir tous ces aspects-là, conditions professionnelles, conditions familiales, conditions sociales. Il y a tous ces paramètres qui rentrent en compte. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi à chaque fois ce prisme très précis, justement, sur des réalités très concrètes où, justement, on évacue toutes les questions, effectivement, morales ou même politiques à long terme ou très, très générales. À chaque fois, il y a quand même aussi des questions qui sont amenées sur le rapport aussi aux prestations sociales. Par exemple, justement, dans ce texte d'Anna Perrin-Heredia qui parle que les allocations familiales ou les allocations de logement font partie des ressources clés, justement, pour la stabilité des ménages. Donc, des ménages les plus pauvres. Donc, il y a à la fois le risque de spirale d'endettement, comme l'a dit Joseph, qui menace. Mais en même temps, ces petites variations supposent des efforts, supposent tout un travail sur soi et aussi le travail par rapport au regard de l'autre aussi, qui montre qu'on se prive, qu'on doit se restreindre pour justement essayer de s'en sortir, de limiter la casse, de limiter les dégâts. Donc, c'est des textes qui nous donnent effectivement un regard très, très précis, presque chirurgical de la réalité.
Avec cette idée qu'un revenu en soi ne dit rien ou ne dit pas tout, en tout cas, qu'il faut le penser dans une perspective dynamique, Joseph Comte.
Dans une perspective dynamique, parce que tout dépend comment on alloue les petits revenus et que dans cette économie domestique très minime, ça se joue à vraiment pas grand-chose. Pour finir par faire énormément, mais pour finir sur ce cas-là, il y a quelque chose, de même que Florence Weber, dans son texte où elle étudie les parcours de familles ouvrières de Montbard et montre qu'il y a des petites différences familiales qui vont des fois se voir seulement à la seconde génération, parce que les enfants iront dans une meilleure école, et ça renvoie à toute la thématique des transclasses. Moi, ce que je trouve intéressant là dans le texte de Anna Perrin-Heredia, c'est que ça évoque à une échelle micro ce que une partie des conclusions de Pierre Rosanvallon dans son dernier livre dont on avait parlé ici en septembre, qui dit aujourd'hui il y a évidemment les inégalités de conditions, mais il faut prendre en compte les inégalités de situation à l'intérieur d'une même classe. D'ailleurs, ça vaut pour les classes populaires comme pour les classes moyennes. C'est-à-dire qu'il suffit d'avoir eu un accident de parcours, un divorce, d'avoir pu acheter éventuellement un petit appartement quand c'était encore possible, ou d'être resté locataire, d'avoir eu une période de chômage un peu plus longue, une maladie qui a duré, pour que au sein d'une même classe où on se dit bon bah les conditions sociales sont les mêmes, en fait, il y a des écarts parfois plus importants qu'entre classes. Et ça, je pense que c'est une des reproblématisations très importantes de la question sociale aujourd'hui.
Allez, Chavalazowski.
Oui, je trouve que c'est très juste d'essayer de justement aussi de reconnecter avec des travaux antérieurs qui peuvent servir d'appui et qui peuvent servir justement de, puisque là on est dans des illustrations très concrètes. Moi, je veux juste prendre deux exemples justement qui vont dans ce sens-là. Par exemple, le texte de Pierre Gilbert sur les rénovations urbaines montre comment justement, alors là c'est une enquête aux mains guettes d'un grand ensemble de la banlieue rouge de Lyon sur la difficulté aussi des mobilités résidentielles finalement et des difficultés qui sont liées à des sortes de logiques d'ancrage et à ce que l'auteur appelle une conscience triangulaire. Et ça fait penser aux travaux de Norbert Elias sur les logiques d'exclusion, où lui avait travaillé sur une banlieue qui était une banlieue industrielle des Midlands d'Angleterre, Leicester, où il explique qu'il y avait trois zones, zone 1, zone 2, zone 3, la zone un peu bourgeoise, la zone ouvrière et puis la zone des immigrés, des migrants, et montrer comment justement, tout en ayant les mêmes conditions sociales, les mêmes travaux, il y avait des limites justement dans la circulation sociale, que c'était quand même très très difficile de sortir justement d'un ghetto ou d'un ancrage. Et ça me fait, et le dernier texte sur la télévision, par exemple, fait aussi penser un peu, justement, à cette question-là du passage par l'écran, par l'image, et qu'il y a toute une réappropriation, hein. C'est les travaux aussi de Bernard Lahire sur l'individu et sur l'hybridité culturelle, justement, des pratiques aujourd'hui de l'image, du son, de la télévision. Ce qui montre que les individus sont dans un rapport très complexe avec ça. Tout le monde regarde finalement les mêmes programmes, mais comment on le regarde, comment on l'inscrit dans son propre parcours individuel, ça c'est plus compliqué.
Alors, parlons du texte de Pierre Gilbert un petit peu sur la question de la rénovation urbaine, Joseph Confavreux, puisqu'il se pose justement d'abord la question de l'opposition ou non, est-ce que l'opposition entre cité et résidence pavillonnaire est aussi évidente que ça, ou en tout cas comment est-ce qu'elle se manifeste, et notamment comment est-ce qu'elle se manifeste à l'occasion des projets de rénovation urbaine, qui peuvent paraître évidemment comme des projets positifs, qui offrent des opportunités aux gens qui étaient dans des logements soit insalubres, soit en tout cas qui ne convenaient pas. Et il montre, Pierre Gilbert, comment c'est un peu plus compliqué que ça, comment ça peut créer des situations d'incertitude et donc des nouvelles formes d'inégalité.
Oui, des nouvelles formes interne aux classes populaires. C'est ça qui est intéressant, c'est que alors qu'on a l'image de loin que la rénovation urbaine, donc est la destruction de certains grands ensembles dégradés pour construire des immeubles plus petits, à taille plus humaine et parfois un peu plus près des axes de transport, donc il prend vraiment l'exemple des Minguettes et à partir de ça, il fait quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire qu'il dit que l'objectif affiché de la mixité sociale, elle ne s'est pas du tout faite. Au fond, les Minguettes sont restées un quartier très populaire, mais par contre, ça introduit une sorte de mixité sociale inédite entre classes populaires stables qui ont eu accès à ces nouveaux logements et classes populaires précarisées qui, elles, sont restées souvent dans des immeubles dégradés parce qu'une rénovation urbaine, c'est jamais une rénovation complète. Il y a quelques bars, quelques tours qui sont détruites et que ça, en fait, ça creuse les différences à l'intérieur des classes populaires, dont une des rares ressources, c'était quand même la vie de quartier, la vie ensemble, et que là, et c'est très intéressant quand même, il montre que les familles, déjà il y a une forte concurrence, parce que pour obtenir des HLM qui vous donnent accès au meilleur logement, bah, il faut bien présenter, il faut montrer que voilà, on a des enfants disciplinés, et que donc, une fois qu'on a obtenu ça, eh ben les classes populaires qui avant vivaient ensemble vont au contraire marquer leurs différences parce qu'elles restent tout près des grands ensembles dégradés. Donc il y a un peu la crainte de finalement pouvoir de nouveau être relégué. Et donc il montre que par exemple il y a un contrôle social des fréquentations des enfants beaucoup plus fort dès qu'on a eu accès à l'immeuble un peu mieux que celui dont on venait. Et moi je trouve que vraiment ça c'est un texte qui est intéressant parce qu'il fait de la sociologie de l'urbain. C'est que souvent la rénovation urbaine, on la voit en manière chiffrée, on a détruit tant de logements, on en a créé tant, il y en a tant qui sont partis du quartier et on se dit bon bah alors là quand même quels ont été ceux évacués, quels sont ceux qui ne l'ont pas été. Et là en fait on voit que c'est à l'intérieur même du quartier rénové que se font de nouvelles différences.
Alors on n'a pas le temps de parler du texte de David Gabiro et Carlota Benvenu sur le hasard de la logistique et donc sur la place qu'a pris l'entrepôt notamment, et c'est quand même très très intéressant dans le déplacement de l'emploi ouvrier, parce qu'il ne reste que quelques instants et j'aimerais Alyosha Valazovsky que vous nous parliez de ce texte sur les classes populaires et la télévision, parce qu'il y a quand même une polémique en ce moment qui est la venue de la ministre Marlène Schiappa chez Hanouna sur C8 et donc on peut être un peu étonné hein, de cette polémique à plusieurs titres, mais notamment sur le rôle finalement dont on se rend compte qu'a toujours la télévision, l'importance que prend toujours la télévision dans les pratiques populaires. Voilà, c'est une vieille idée, hein, nous rappelle au début de ce texte, l'auteur nous rappelle que c'est une vieille idée des classes populaires abruties par la télévision. Il nous montre qu'en fait, il y a un usage beaucoup plus fin de la télévision que ce qu'on ne peut penser.
Oui, c'est vrai que vous avez raison de rappeler un petit peu la télévision, c'est un peu le baromètre de l'équilibre familial. Tout le monde s'y retrouve à un moment donné. On oublie un peu les conflits, il n'y a plus de disputes, et puis on évite aussi le silence en allumant la télévision, et que ça rythme la vie évidemment des citoyennes et des citoyens comme une sorte d'horloge de la vie du foyer. Et puis alors ici, c'est vrai que c'est intéressant parce que alors d'abord ça met de côté un autre sujet qui est les écrans en général, parce que c'est vrai qu'on pourrait parler aussi de tout type d'écran aujourd'hui. Disons que la télévision s'ajoute à la télévision d'autres écrans, d'autres pratiques aussi d'image et du pouvoir de l'image l'image évidemment sur les individus. Alors il y a des exemples très concrets qui sont pris, hein, comme les émissions de déco, émissions très populaires puisqu'on parle d'émissions très concrètes.
Valérie Damido,
voilà, qui suscite. Alors là aussi, est-ce que les émissions populaires sont genrées? Est-ce que ça suscite plutôt l'intérêt des femmes que des hommes? Est-ce que les unes s'intéressent à des émissions parce que ça parle justement de la santé, de la famille, de la sexualité, de l'amour? Les hommes qui, après tout, préféreraient plutôt des émissions sur le sport, le foot ou des choses. Voilà, il y a un champ d'études là-dessus, sur effectivement la télévision est un objet d'étude sociologique très important, par période, par classe, par disons par aussi groupe d'individus. Et alors ce qui est intéressant, c'est que d'une part pour les classes populaires, c'est un moyen de se réapproprier évidemment aussi la culture. C'est aussi un moyen d'alimenter les conversations, et ça montre aussi comment on échappe à certaines contraintes en passant par la télévision. Donc c'est des pratiques culturelles hybrides.
Où va la France populaire? On n'aura pas la réponse à la question, mais on aura quand même quelques éléments pour comprendre. C'est ce livre dirigé donc par Nicolas Duvoux et Cédric Lomba aux Presses universitaires de France.
L'instant critique.
L'instant critique, je vous ai proposé cette semaine de parler du dernier numéro de la revue, ou plutôt du magazine Sciences Humaines, qui est un magazine mensuel qui fait souvent des dossiers très très intéressants et accessibles justement sur les grands enjeux intellectuels et de la recherche appliquée souvent à l'actualité. Et là, elle nous propose un abécédaire des idées d'aujourd'hui. Alors c'est un exercice évidemment, l'abécédaire, qui est presque une forme de marronnier, hein, pour ce type de magazine, mais qui est présenté ici comme une sorte d'anti-belvédère, c'est-à-dire c'est l'exercice qui n'est pas surplombant par excellence et qui permet de développer un certain nombre de perspectives pour comprendre le contemporain. Alors voilà, on prend des lettres, évidemment, on y associe des idées pour aujourd'hui en allant butiner comme ça. On fait un regard un petit peu subjectif. C'est un dossier qui a été coordonné par Héloïse Lérété et qui propose de s'emparer d'antispécisme, de climat, de conneries. Ça, c'est pas une idée neuve, comme dirait l'autre. Réactionnaire, sexualité, bref, un certain nombre d'idées comme ça, et de comprendre comment elles infusent, Joseph Confavreux, aujourd'hui, la pensée, et notamment à travers les publications récentes.
Oui, alors l'abécédaire, c'est un peu le micro-trottoir des intellos. Et c'est un peu comme le micro-trottoir, ça donne vraiment des fois une petite pépite et souvent des propos pas très intéressants. À cette échelle, malheureusement, je pense que ce dossier est assez raté. C'est-à-dire que c'est trop ou trop peu. On est sur des mots qui sont pas toujours très surprenants, qui sont souvent en fait en référence à un livre publié dans les 3-4 dernières années. On n'est pas non plus sur la dernière pointe de l'édition française. Alors évidemment, hein, dedans, il y a des choses intéressantes, notamment sur la guerre, hein, qui fera un écho au livre de Catherine Haas. Mais on sent quand même là le dossier un peu fait en surface, un peu vite fait, qui malheureusement, notamment il y a beaucoup logiquement, hein, de choses sur le climat, l'apocalypse, et par exemple aujourd'hui, ce qui est au cœur de la question, c'est cette notion d'effondrement, hein, théorisée par Jared Diamond dès 2006, qui aujourd'hui, beaucoup de gens trouvent que ça pose problème, parce que ça donne pas tellement de prise pour peut-être essayer de freiner le réchauffement climatique, et donc c'est une question qui est très politique, qui est très débattue, il y a des livres entiers consacrés à ça, et alors qu'il y a au moins 4-5 entrées sur les questions climatiques, ce débat-là de quels sont les bons mots pour désigner ce qui nous arrive et peut-être pour agir politiquement dessus, sont quasiment absents.
Allez, Chaval Lazowski, c'est vrai que ça fait parfois un peu catalogue des sorties plus que réflexion. Malgré tout, on a un paysage des polémiques ou des discussions telles qu'elles se jouent depuis un certain nombre de...
Oui, je vais défendre un petit peu le dossier quand même, parce que bon, c'est vrai que c'est un abécédaire des idées, peut-être plus un abécédaire des thèmes d'ailleurs, parce que c'est plus une manière justement d'entrer dans les idées à partir de thèmes qui permettent de commencer par des éléments d'actualité, parce que justement, bah, pour répondre un peu à Joseph, l'auteur de l'article sur Apocalypse dit que justement le gouvernement n'est pas aveugle à ses causes et que le Premier ministre Édouard Philippe est justement un lecteur d'effondrement de Jared Diamond sur l'autodestruction des sociétés. Et donc ça permet finalement, peut-être en passant par ce... Alors c'est ce que dit d'ailleurs en préambule, hein, Héloïse Lérété, c'est qu'il s'agit ici de butiner, hein, de cheminer, de se faire un petit peu un petit catalogue, un petit magazine d'idées, pour reprendre l'expression de Rousseau, c'est-à-dire simplement des repères qui touchent d'ailleurs à la fois la psychologie, l'éducation des enfants, la sociologie, la masculinité, la féminité. Donc il y a des thèmes de société, des thèmes plus classiques. C'est une manière évidemment de proposer un cheminement. Hein, c'est ce qu'elle dit. Hein, nous ne piquerons pas que des connaissances, nous découvrons des perspectives. Donc c'est plus effectivement une sorte d'amuse-bouche. Je pense que c'est plus pour mettre en appétit. Alors ce qu'il faut faire, c'est parcourir l'article et aller surtout à la fin, parce que c'est à la fin des articles qu'il y a les références justement d'ouvrages. Par exemple, il y a le Jean-Claude Azéra sur comment meurent les démocraties à Démocrature. Et là, je pense qu'en partant justement du thème, du petit texte, on arrive à des ouvrages de référence et ça donne envie.
Non, mais c'est vrai que depuis que l'écoute d'avis critique a été rendue obligatoire dans toutes les écoles le lundi matin depuis maintenant un an, tous ceux qui auront écouté depuis un an avis critique seront un peu l'impression de survoler les choses traitées beaucoup plus en profondeur.
Je vous remercie Joseph Confavreux. On va évidemment faire passer le message à Jean-Michel Blanquer. Ce serait de salubrité publique d'écouter avis critique comme vous le faites. Et je vous en remercie chaque samedi, chers auditeurs. Voilà, avis critique, c'est terminé. Attaché d'émission, Catherine Donnet à la réalisation aujourd'hui. C'était Vanessa Nadjar, à la prise de son Guillaume Ledieu. Vous pouvez évidemment réécouter, télécharger, faire écouter cette émission à vos enfants sur franceculture.fr. Dans quelques instants, Jukebox.